Chers frères et sœurs, chers amis, nous voulons dire à chacune et chacun en cette heure, qui que tu sois, frère et passant, paix sur toi. Sois ici comme l'hôte d'une large famille, d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille, militante et blessée, battue, mais invincible, tu es l'hôte de Dieu et tu es chez toi. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, proclame l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe. Nous voulons ce matin et ici nous en faire l'écho en disant à chacune et chacun, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Éternel, nous aspirons à la sérénité. Nous avons besoin de quitter nos soucis et d'être libérés de nos tensions, de recevoir la paix que tu apportes à nos vies. Éternel, nous venons nous reposer en toi et en ta parole, sainte, fidèle, et ta parole apaisera notre soif de paix et d'amour. Sois loué, ô notre Dieu. Je vous invite à chanter, pour prolonger notre louange, le psaume 25, la première, la deuxième et la quatrième strophe de ce psaume numéro 25. Alors nous saluons chaleureusement les enfants des écoles bibliques qui se sont joints à nous pour le début de ce culte. Nous leur souhaitons une bonne continuation pour cette instruction et une bonne semaine. Nous écoutons maintenant la volonté de Dieu. Heureux es-tu si tu fermes ta porte à la violence et à l'instinct de dominer tes semblables. Alors s'ouvrira la porte de ton cœur à la force de la douceur et de la maîtrise de soi, et tu auras la joie de voir la terre venir à toi. Heureux es-tu si tu ne crains pas de vibrer avec ton prochain, affronté à la douleur, à la solitude ou à la misère. Alors s'ouvrira la porte de ton cœur aux larmes de la compassion et aux gestes qui relèvent. Et toi aussi, tu seras consolé. Amen. Éternel, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu des vivants, sois encore mon Dieu. Je suis assailli par les angoisses. Je me ferme à toi, à moi-même, à ces autres que pourtant tu mets sur mon chemin, comme autant d'occasions de me relever et de me réjouir. Je m'obstine. Alors que tu m'appelles à l'amour. Ce que tu m'offres m'effraie, au lieu de me donner des ailes. Tu m'as fait pour la joie, et je suis empêtré dans mes regrets et mes remords. Tu m'as fait pour le présent, et je reste lié par les tourments du passé. Tu m'as fait pour la vie, et je me laisse si souvent aller au découragement, et je t'oublie. Éternel, toi qui es mon Dieu, attire-moi encore vers toi. Amen. Je crois que l'Esprit de Dieu recrée sans cesse en nous son image, qu'il change nos esprits encombrés de peur. Il nous rend capables de donner du goût à notre terre et d'illuminer ce monde par sa clarté. Il souffle sur nous le vent des béatitudes et du pardon pour donner un visage au règne de Dieu qui accueille tout homme et toute femme de bonne volonté. Oui, je crois que Dieu désire la vie, notre vie, et la donne sans mesure. Rendons grâces à Dieu pour son don ineffable. Amen. Je crois en Dieu. Par lui, l'univers et notre existence sont créés toujours à nouveau. Dans le chantier du monde, son esprit nous anime et nous porte. Il donne chaque jour à notre vie un sens positif, une dignité fondamentale, une vocation créatrice. Dieu est l'avenir de l'humain. Sa présence éternelle dépasse les espaces et les temps. Je crois que Jésus nous fait entendre sa parole. Il est celui que nous écoutons et auquel nous regardons pour savoir qui est Dieu et qui est l'homme. Un Dieu d'amour, selon la Bible. Un Dieu pour lequel l'être humain et la terre entière sont une espérance invincible. En Jésus, l'homme et Dieu sont à jamais réunis et inséparables. Il est un exemple pour nous et pour le monde. Nous reconnaissons une seule Église universelle et connue de Dieu seul. Elle existe par-delà les institutions chrétiennes et les frontières religieuses. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Amen. Éternel, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant dans nos existences des chemins de lumière. Nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi, en ton esprit, qui souffle sur le monde du commencement jusqu'à la fin des temps. Ta parole nous enracine dans les profondeurs du passé et lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Elle élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, celle de l'infini et de l'éternité. Éternel, ouvre nos portes intérieures pour qu'à travers les paroles que nous allons entendre, passe au plus profond de nous ton souffle créateur. Amen. Je vous invite à écouter la lecture de la Bible. Tout d'abord, dans l'Ancien Testament, au livre du Deutéronome, le chapitre 6, les versets 4 à 6, ces paroles attribuées à Moïse. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Et puis toujours dans l'Ancien Testament, au livre du Lévitique, au chapitre 19, le verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Enfin, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22, les versets 34 à 40, ce récit que l'on trouve aussi dans l'Évangile de Marc et dans l'Évangile de Luc. Quand les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens, ils se réunirent. Les pharisiens, les sadducéens, ce sont des partis religieux et théologiques du temps de Jésus. Et l'un d'eux, un maître de la loi, voulut tendre un piège à Jésus et lui demanda, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Et dans l'évangile de Marc, où nous avons le même récit, le maître de la loi qui a interrogé Jésus ajoute, cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite maintenant à chanter le cantique 249, toutes les strophes 1, 2 et 3 du cantique numéro 249. Éternel, depuis que tu nous cherches, tu viens à nous. Tu viens vers nous par les créations matérielles, les splendeurs, la magnificence des cieux. Tu es venu à nous dans les aubes où les âmes se dégagent des ombres, dans les joies et les peines, dans les liens de la famille, dans la personne des justes qui sont nos guides et nos frères. Tu as marché, lutté, souffert et chanté parmi nous. À travers nos jours éphémères, a transparu ton sourire qui demeure. Et tu nous as fait boire aux coupes d'ici-bas, qu'elles soient douces ou amères, un breuvage ou fermente, un espoir éternel. Tout être qui se donne fait un geste divin. À travers la poussière des héros et des martyrs, tombés pour les causes justes, brille des rayons d'or. Dans chaque regard d'enfant, tu as mis ta promesse et les vaincus du droit t'attendent dans leur tombeau. Éternel, toi qui te fais homme pour être plus près de nous, comme les épis mûris sous tes caresses, ton soleil se fait pain afin de nous nourrir. Sois béni. Amen.
Thank you.
Chers frères, chers amis, depuis quelques années, un conseiller presbytéral m'interpellait afin que je consacre une prédication à la question suivante, qui était la sienne et qui va devenir la nôtre. Le Dieu des philosophes est-il le même que celui des simples croyants? Alors, la prédication de ce jour va essayer de répondre à cette interrogation, mais en la plaçant dans un cadre à la fois plus large et plus classique, à savoir le débat foi et raison. J'entends la raison ici dans un sens tout à fait basique, de réflexion, d'intelligence. Et foi et raison, cela signifie théologie et philosophie, bien sûr. Et je placerai l'ensemble de cette prédication sous l'égide de ce commandement que nous relisions tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu, mais qu'on trouve aussi dans celui de Luc et de Marc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc pour aujourd'hui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Vous avez remarqué donc qu'au moment des lectures bibliques, ce commandement se trouve en fait dans le livre de l'Ancien Testament, le Deutéronome. Mais chose assez surprenante, les deux versions entre l'Ancien et le Nouveau Testament ne sont pas les mêmes. À savoir que dans le livre du Deutéronome, il n'est pas dit d'aimer Dieu de toute sa pensée, mais de toute sa force. Donc, cette volonté d'aimer Dieu de toute notre pensée est inscrite au cœur du Nouveau Testament et appartient à une parole de Jésus lui-même. Le philosophe au XVIIe siècle, Blaise Pascal, écrit de Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et non pas Dieu des philosophes et des savants, Dieu de Jésus-Christ. Ces mots se trouvent dans son fameux mémorial rédigé après une conversion intérieure, une sorte d'illumination où il fait l'expérience d'un Dieu éprouvé au cœur de son cœur, au plus profond de lui-même. Mais je ne pense pas qu'il faille chercher dans ces mots qui traduisent une expérience vibrante l'annonce d'un système théologique opposant la philosophie et la théologie. Au contraire, le fameux ouvrage de Blaise Pascal, Les Pensées, qui sont un génial brouillon, puisque ce livre n'a jamais pu être achevé, ce livre voulait être une apologie du christianisme, une défense du christianisme qui articule précisément la foi et la raison dans une complémentarité. Or, beaucoup trop de chrétiens ont utilisé ces paroles de Pascal, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu de Jésus-Christ, et non pas des savants et des philosophes, pour justifier et pour excuser une paresse intellectuelle. N'ignorons ni les exigences de la raison, ni celles de la foi et leur fondement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Les preuves de l'existence de Dieu. Je ne vais pas les rappeler ici, il y faudrait toute une prédication, sont intéressantes au moins par leur démarche. La recherche de preuves de l'existence de Dieu. Elle exprime, cette preuve et ces preuves, elles expriment une quête. Leur démarche, en effet, se veut très positive, même si, à mon avis, ces preuves n'ont jamais converti personne, ou n'ont converti que ceux qui l'étaient déjà. Mais elle nous montre que la raison, la réflexion, l'intelligence, la pensée n'ont pas à se faire harakiri quand il est question de foi et de la foi en Dieu. Ces preuves nous montrent au moins qu'il n'est pas absurde de croire en Dieu, qu'il y a des raisons et même de bonnes raisons de croire en lui. Certes, aujourd'hui, nous cherchons moins que naguère peut-être à prouver Dieu, mais nous voulons dire un Dieu crédible. La pensée n'a pas à être abandonnée au profit d'une foi aveugle quand il est question de foi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. J'aime ce titre d'un livre du professeur et théologien André Gounel, autrefois professeur de théologie à la faculté protestante de Montpellier. Ce livre s'intitulait « Penser la foi ». Et je me rappelle l'exemple d'Albert Schweitzer qui raconte dans ses mémoires qu'alors qu'il était catéchumène, alors qu'il faisait son catéchisme, le pasteur avait dit à cette année de catéchisme que toute raison, que tout raisonnement devait être sacrifié quand il est question de foi et de foi en Dieu. Or, le jeune catéchumène qui était Albert Schweitzer était très choqué et même scandalisé par cette affirmation parce qu'il estimait que la pensée, que la réflexion, que la raison étaient elles aussi un don de Dieu. Et Schweitzer écrit « Dès ma jeunesse, j'ai eu la conviction que toute vérité religieuse doit, en dernière analyse, s'imposer également à l'esprit comme une vérité nécessaire. » Alors j'aimerais dire, pour conclure cette première étape, quelques mots de ce qu'on appelle la théologie naturelle. Cette théologie estime que l'être humain peut accéder partiellement, il est vrai, à Dieu par lui-même, sans passer par une révélation en tant que telle. Il peut accéder à Dieu par sa raison, nous venons d'en dire quelques mots, par un sentiment, le sentiment religieux qui vibre en nous, en contemplant la création et sa beauté. Et malheureusement, toute une théologie de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle s'est opposée à cette idée d'une théologie naturelle, disant même que c'était là par excellence le péché de l'être humain et que la foi devait être toute nue et seulement une foi dans la révélation. Pas de raison, pas de sentiment religieux, pas de beauté du monde nous permettant d'accéder à Dieu. Il me semble qu'il y a là une position tout à fait excessive. D'ailleurs, Calvin lui-même, le réformateur du XVIe siècle, écrit dans son ouvrage monumental, emblématique, « L'institution de la religion chrétienne », il écrit cela tout au début de ce livre, c'est dire l'importance qu'il accorde à ces mots, « Nous mettons hors de doute que les hommes aient en eux un sentiment de divinité, même d'un mouvement naturel. » Certes, ce Dieu auquel nous accédons par nous-mêmes n'est pas exactement le Dieu de l'Évangile, le Dieu de la crèche, le Dieu d'une croix, c'est toujours un Dieu très inattendu. Mais il y a en nous un sentiment religieux et je dirais que, pour le moins, l'homme porte en lui la question de Dieu. Jean-Paul Sartre, tout à fait athée, disait même que c'est pour lui le propre de l'être humain. Il porte en lui la question de Dieu. Dans sa prière, le psalmiste, c'est au psaume 27, déclare à Dieu, mon cœur dit de ta part, mon cœur, cherchez ma face. Et Augustin, saint Augustin, au 4e et au 5e siècle, écrit de Dieu Deus intimor intimo memo. Dieu plus intime à moi-même que moi-même. Voyez-vous, je pense qu'il est juste de suivre ces théologiens qui disent qu'il y a en nous une pré-compréhension de Dieu. Un athée sait très bien de quoi on lui parle quand on lui parle de Dieu. Il y a en nous une pré-compréhension de Dieu. Alors, dans une deuxième étape, j'aimerais parler de cette méthode historico-critique de lecture de la Bible, de cette méthode exégétique, parce qu'elle s'inscrit précisément dans le débat foi et raison. Cette méthode est une méthode rationnelle d'exégèse. Elle est issue plus particulièrement du protestantisme libéral allemand au XIXe siècle et est reprise très généralement dans les cadres de notre Église protestante unie de France. Elle est enseignée et pratiquée dans les facultés de théologie de Paris, de Montpellier et bien entendu aussi de Strasbourg. Que dit cette méthode? Elle dit qu'il faut essayer de retrouver le sens, l'état premier du texte biblique qui a connu plusieurs versions, qui a connu des changements, des modifications et toute une évolution avant d'arriver à nous. Il s'agit de trouver, si possible, l'événement qui sous-tend ce texte biblique. C'est donc une enquête historique, scientifique, de critique littéraire appliquée à la Bible comme à n'importe quel autre livre de la littérature, mais le but que se fixe cette méthode est très difficile à atteindre. Par exemple, Jésus a-t-il vraiment dit et fait tout ce qu'on nous dit qu'il a dit et fait d'après les évangiles? A-t-il matériellement, physiquement, corporellement, marcher sur les eaux? Ou, un autre exemple, les récits de la création aux deux premiers chapitres de la Genèse, ils sont d'ailleurs deux récits. Alors lequel est vrai, le premier ou le second? Les récits de la création n'ont pas un but historique. Ils sont des grands poèmes symboliques, des épopées très profondes. D'autre part, l'univers en trois étages, qui est unanimement celui de la Bible. Dieu au ciel avec les anges, la terre et les enfers au-dessous de la terre. Cet univers en trois étages ne peut plus être le nôtre. Et ici même, le dimanche qui suivait le jeudi de l'Ascension, j'ai dit que pour nous, on ne pouvait plus affirmer que Jésus était monté au ciel comme une fusée. Or, c'est bien ce que nous dit le texte biblique. Alors, on va me rétorquer, certains en tout cas, qu'en disant ce que je dis, en affirmant cela, je fais une œuvre de sape, de destruction rationaliste de la foi. Or, je pense que c'est exactement l'inverse. Je pense que la méthode historico-critique, dans ce sens-là, correspond à une exigence de la foi elle-même, et que par conséquent, à travers la raison, elle veut sauvegarder la foi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ne pas confondre l'Évangile, au singulier l'Évangile, avec le moule dans lequel il est coulé. Une conception du monde qui n'est plus du tout la nôtre, qui était la conception scientifique et culturelle de l'époque. Alors maintenant, les exigences de cette méthode, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle, Mais l'essentiel ne doit pas être pour nous l'événement historique ou non, qui se trouve derrière, en dessous des textes bibliques, mais quand nous lisons ces textes, quel est leur sens? Quelle est leur signification? Quelle est leur interpellation pour nous aujourd'hui dans l'ordre de la foi? Entendons-nous, par exemple, une parole de Dieu à travers des textes si lourdement ou merveilleusement humains? On passe ainsi d'une démarche rationnelle légitime à une démarche relationnelle qui est celle de la foi. Nous disons oui ou nous disons non au sens et aux significations de ces textes qui nous interpellent. Alors vous voyez, la méthode historico-critique nous dit qu'il faut replacer les textes dans leurs différents contextes, et souvent quand ils nous choquent, on les comprend beaucoup mieux quand on les replace dans leur contexte, qui ne sont plus les nôtres. Ces textes ont évolué, et les notions qu'ils contiennent ont évolué à l'intérieur même de la Bible. Le Dieu de Jésus, un Dieu d'amour, nous dit la première épître de Jean à deux reprises, est-il compatible avec des représentations qui nous paraissent archaïques, dépassées, anthropomorphiques de Dieu, telles qu'on les trouve très souvent dans la Bible? C'est Voltaire qui écrivait au XVIIIe siècle, Dieu créa l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Ce Dieu vengeur, ce Dieu cruel, ce Dieu sanguinaire qui veut que le sang coule sur la croix pour pardonner aux hommes. Je me rappelle le pasteur Marshall ici même qui disait, ce Dieu n'est même pas à la hauteur d'un honnête homme. Ce Dieu-là est-il ce Dieu d'amour? De quel Dieu parle-t-on? Le Dieu des philosophes n'est-il pas très souvent d'ailleurs, pour revenir à la question posée, beaucoup plus évangélique que le Dieu de tant de religions et même de tant d'aspects nocifs du christianisme? Certes, ce Dieu des philosophes est très conceptuel, très abstrait, un peu glacé, le Dieu de la pensée, mais souvent il est bien plus évangélique que le Dieu des religions et même de tant d'aspects du christianisme, ce Dieu qui organise les combats, les tueries de l'Ancien Testament, qui veut les sacrifices, ce Dieu vengeur et sanguinaire. Cette image-là de Dieu fait fuir de nos temples, de nos églises, tant d'hommes et de femmes qui ne demanderaient pas mieux que d'y être. Et j'ai souvent dit, et je le maintiens, que devant cette image de Dieu, si on me l'imposait, je préférerais à cela un humanisme sereinement athée. Alors, troisième et dernière étape, j'aimerais procéder à deux dépassements. Des dépassements de la raison, de la pensée, non pas par la foi, mais c'est tout à fait différent, vers la foi. D'abord, vous avez compris qu'il me semble vain de vouloir opposer la foi et la raison, et que je préfère parler ici d'un dépassement. Le philosophe Kant, protestant, au XVIIIe siècle, dans la deuxième préface qu'il donne à son livre « La critique de la raison pure », en 1787, écrit ceci: j'ai dû dépasser le savoir pour lui substituer le croire. L'irrationnel n'est pas contre le rationnel le postule, y conduit, y aboutit. Il y a un dépassement dans un cheminement qui reconnaît tout à coup quelque chose qui nous dépasse. C'est la raison elle-même qui postule ses limites. C'est la pensée qui opère cette démarche. Il ne s'agit pas du tout d'une négation au profit d'une foi aveugle. La foi et le mysticisme ne sont pas une capitulation de la pensée, mais son accomplissement, son épanouissement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Et Albert Schweitzer, que je citais tout à l'heure, précise encore, dès ma jeunesse, j'ai eu la conviction que toute réflexion qui va jusqu'au bout de ses conclusions finit en mysticisme. J'ai lu récemment un livre très difficile pour nous occidentaux et qui appartient à la littérature mondiale et plus particulièrement à, comme trésor à la religion de l'Inde, la Bhagavad Gita. Eh bien, l'introducteur de cet ouvrage, dans l'édition que j'avais sous les yeux, écrit « L'expérience mystique utilise la raison, la logique et le bon sens jusqu'où ils peuvent aller et ensuite les dépassent. » Alors, deuxième dépassement, là je cite un autre penseur protestant allemand, c'est un historien des origines du christianisme, Adolf Harnack, H-A-R-N-A-C-K. Harnack, Adolf von Harnack, dit-on souvent, parce qu'il était anobli par l'empereur. En 1900, Harnack publie un livre qui a fait le tour du monde, qui a eu un succès retentissant, inattendu, incroyable, l'essence du christianisme. Bien sûr, pour lui, l'essence du christianisme est à trouver dans l'Évangile. Mais, d'après lui, les premiers siècles du christianisme, les premiers penseurs du christianisme, les premiers théologiens chrétiens, toute une génération de pères de l'Église, comme on les appelle, a substitué des doctrines, des dogmatiques, à la dimension morale, pratique, éthique des évangiles. Bien sûr, ces doctrines peuvent être importantes, mais il ne faut pas qu'elles remplacent le message existentiel de l'évangile. Et vous connaissez, d'après l'évangile de Jean, cette parole de Jésus, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » C'est à l'amour de Jésus et non pas à des doctrines ou à des rites ou à des églises. Et sur ce point, il me semble qu'un protestantisme libéral qui insiste tellement sur la pratique évangélique, on dit les pratiquants très souvent dans la littérature, dans les journaux ou les sociologues, mais les pratiquants ne sont pas du tout ceux qui vont au culte, même si c'est très bien de venir au culte. Je suis heureux d'y voir notre ami Hubac aujourd'hui, dans notre culte. Les pratiquants sont ceux qui mettent l'évangile en pratique. Alors il y a un lien entre cette perspective d'un protestantisme libéral et d'un christianisme social, qui lui aussi dit que l'essentiel c'est la pratique d'un christianisme dans les cadres de notre société. Alors, ce sera ma conclusion, si la raison postule son propre dépassement à travers la foi, il y a donc un autre dépassement, celui des doctrines, celui des dogmes, celui de la pensée, vers une pratique existentielle de l'Évangile, seule véritablement centrale d'après lui. Nous avons deux commandements, on le sait bien, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ces deux commandements, vous l'avez entendu tout à l'heure, sont séparés dans l'Ancien Testament. L'amour de Dieu, c'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, le verset 5, et l'amour du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le livre du Lévitique, au chapitre 19 et au verset 18. Eh bien, il est très beau que dans le Nouveau Testament, ces deux commandements, à travers l'Évangile, à travers les paroles de Jésus, n'en fassent qu'un. sont toujours réunis dans le sommaire de la loi qui nous invite à aimer Dieu de toute notre pensée, de tout notre cœur, mais qui nous invite en même temps, dans un commandement dont le texte nous dit qu'il est semblable au premier, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Amen. Voici le temps des annonces. Tu peux les faire, Vincent? Eh bien, c'est merveilleux. Vincent Hubac va faire les annonces. Il y a une annonce qui devrait être faite par une éclaireuse, je crois, ou il faudrait la chercher peut-être.
Cet après-midi, il y a quelque chose.
Elle voulait faire un appel pour... Non, je crois
c'est
plus...
C'est pour cet après-midi, hein?
Je crois plus que pour cela.
Voilà. Je ne sais pas, Laurent, si tu as exprimé le plaisir de me voir dans l'Assemblée, mais moi, j'exprime le plaisir de t'avoir entendu. Et donc, je dois dire, je suis mieux ici que dans les pattes de l'infirmier que j'ai rencontré ce matin. Donc, il n'y a pas de problème. Et vraiment, un grand, grand merci pour cette prédication extrêmement libérale dans laquelle j'entre parfaitement. Et évidemment, vous en doutez. Voilà, donc, on espère te revoir bientôt, évidemment. Il n'y a pas de problème. Donc, vraiment très très grand merci et beaucoup de reconnaissance. Et je voudrais aussi exprimer la joie que j'ai de vous voir, les uns les autres, en particulier, je dirais, les visages de ceux qui ont eu des soucis de santé ces temps derniers. Il y en a quelques-uns dans l'Assemblée qui ont eu des problèmes à gérer aussi graves que les miens, ou peut-être plus graves même. Et donc, ça fait plaisir de vous voir, tous et tous ici, évidemment. Je me sens irrésistiblement attiré pour venir assister au culte, pour être avec vous, évidemment. C'est quelque chose qui me semble tout à fait normal. Puis, je voulais vous remercier pour les soutiens que vous m'adressez les uns les autres. J'ai un peu de mal à répondre à tout, hein. Entre les SMS, les téléphones, les lettres, enfin bon, ça fait beaucoup de choses. Mais je dois dire que c'est extrêmement sympathique. On se sent quand même très, très soutenu et c'est très, très positif, évidemment. Alors, je vous fais part des dernières nouvelles de demain, comme disait feu Geneviève Tabouy il y a longtemps. Cette semaine, c'est à peu près calme, j'ai rien noté, si ce n'est que dimanche prochain, on aura le plaisir d'entendre Louis Pernaud, voilà, qui est pasteur à l'Étoile. Je pense qu'on aura une prédication aussi libérale, hein, très vraisemblablement. Hein. Voilà. C'est Louis, hein, c'est pas Marc, qui lui viendra pour le jeudi de Pâques, pour le jeudi de... Le jeudi saint, pardon, excusez-moi. Alors, je vais vous parler un petit peu, projeter un petit peu dans l'avenir. Je voudrais vous signaler que le 19, dimanche 19, il y a l'Assemblée générale. Et que c'est une Assemblée générale, ce n'est pas une Assemblée confidentielle. Donc, il faut faire peut-être un petit effort pour assister à cette Assemblée générale. C'est important, puisque, bon, d'autant plus important, puisque vous savez qu'on a quelques soucis dans la paroisse à cause des embarras que j'ai, évidemment. Voilà, et puis il y a les perspectives de mon remplacement aussi, c'est important, évidemment. Donc, je pense qu'il y a des enjeux qui sont là. On a eu des très gros soucis cette année, vous savez, au niveau financier aussi. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, à partager, à revoir, et puis à soutenir celles et ceux qui ont la responsabilité de la conduite de la paroisse aussi, évidemment. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'il y a des groupes qui fonctionnent quand même. Hein. Hier matin, il y avait Évangile des Libertés, que Laurent a animé, et puis il remettra ça samedi 18. Le vendredi aussi, à 17, il y a Psychanalyse et Foi, qu'on a relancé, là, après une petite interruption due à la maladie. Donc, il y a des choses qui se remettent en place, comme ça, et je trouve qu'il faut être assez attentif pour faire vivre ces groupes, parce que c'est tout à fait essentiel. Je veux dire, on est avec le groupe Évangile et Liberté, Psychanalyse et Foi, ce type de réflexion dont parlait Laurent dans sa prédication, c'est vraiment c'est réfléchir sur les textes bibliques, et je crois que c'est très, très important de pouvoir le faire et d'en témoigner aussi. Voilà, il y a peut-être d'autres choses à dire. Alors, cet après-midi, alors effectivement, tant que je sache, hein, mais là, je ne suis pas tout à fait au courant, il y a une réunion d'éclaireurs et de branches aînées. Je crois que c'est pour leur projet ou je ne sais pas trop quoi, ce qu'ils veulent faire. Mais il y a une animation qui est prévue. Ils ont préparé des gâteaux, des tas de trucs. Enfin bon, voilà. Donc, si vous voulez aller les rencontrer, les soutenir, les questionner sur le mouvement des éclaireuses et éclaireurs, il n'y a vraiment pas de problème. Il y a ça. Hein. Voilà, de 14 à 19 heures. Voilà. Ils sont allés cet été dans l'Ariège, à Saverdin. Je ne sais pas si vous savez où est Saverdin. C'est un pays civilisé. Il n'y a pas de terrain de foot, il n'y a que des terrains de rugby. Donc, c'est quand même un pays bien. Ils ont crapahuté un peu dans l'Ariège, etc. Je ne sais pas s'ils sont allés au Carl Bail et réfléchir sur la philosophie de Pierre Bail. Mais enfin, bon, ils sont baladés dans toute l'Ariège. Et donc, ils vous racontent l'Ariège du Nord, hein, pas l'Ariège des Pyrénées. Ils vous raconteront donc leur périple, évidemment. Voilà. Donc, c'est important de les soutenir, évidemment, parce que c'est bien ce genre de choses. C'est la branche aînée, donc. Hein. Voilà. D'autres annonces, non ? Mardi prochain, 28, il y a la pause biblique, c'est le livre de Job. Alors, si vous venez vers midi, il y a un repas qui est partagé à ce moment-là. Et au cours du repas, il y a le partage sur le livre de Job. Ça marche ? Et l'Assemblée générale de l'entraide, c'est ça ? C'est quand la date exacte ? Le 12 mars, après le culte, vous avez Jean-Pierre Rives qui fera le culte et qui est un ancien président, si je me trompe, de la Mission populaire, je ne veux pas dire de bêtises, donc ça tombe bien. Il y aura après l'Assemblée générale du diaconat, de l'entraide. Là aussi, c'est une Assemblée générale, je vous le rappelle. Et je vous rappelle que vous pouvez cotiser à l'entraide aussi, hein ? Parce que sur la paroisse, nous avons combien, Chantal ? Nous avons une trentaine de cotisants seulement, ça ne fait pas beaucoup, hein ? Bien, voilà. Et donc, si on veut partager un peu l'amour du prochain, ben c'est un canal qui n'est pas inutile. Hein. Ça marche ?
Je vais annoncer le cantique numéro 300, pendant lequel aura lieu
l'offrande.
L'offrande. Cantique 300, toutes les strophes.
Plein. Merci bien.
Merci pour tout le travail.